Je suis en compagnie de Déborah Lévy. Nous parlons de votre texte « L'aversion » qui est paru en septembre 2023 aux éditions Alia. Nous nous trouvons aux éditions Alia. Lorsque j'ai lu « L'aversion », je me suis tout de suite imaginé que vous avez eu de nombreuses lectures en anthropologie et j'ai imaginé aussi que vous étiez parti peut-être de cette collection « Terre humaine » aux éditions Plomb. On pense à « Triste tropique » de Claude Lévi-Strauss, on pense au « Dernier roi de Tulé » de Jean Mallory, et je pensais aussi aux « Lances de crépuscule » de Philippe Descola. Et que voilà, j'imagine, je fais l'hypothèse que vous partez de ce corpus où des anthropologues ont écrit pour le plus grand public, c'était le but de la collection Terre humaine, et faisaient plutôt une mise en récit de leur terrain en anthropologie. Est-ce que c'est votre base pour écrire l'aversion ?
Merci. Vous n'êtes pas le premier à me poser cette question par rapport à l'anthropologie ? Le texte a été beaucoup considéré comme une sorte d'exercice de type anthropologique. C'est pas mon point de départ. J'ai pas lu les livres de cette collection. J'ai pas lu tous ces rapports ethnographiques. J'ai lu très peu de textes de cette nature-là. Par contre, ce que je peux dire peut-être, c'est que c'est pas mon point de départ, mais c'est effectivement mon point d'arrivée d'une certaine manière, à ma propre surprise. Et peut-être que y a un élan qui est le même que celui d'un anthropologue qui va sur un terrain. C'est le désir, l'appel à rencontrer une altérité, et particulièrement peut-être une altérité cognitive. Ma rencontre avec ce peuple, c'est un élan pour découvrir d'autres façons de penser, d'autres façons de vivre. Donc, dans ce cas-là, peut-être que la démarche, elle est proche d'un ethnographe ou d'un anthropologue.
Parce que nous avons affaire à un narrateur, une narratrice, enfin j'avais imaginé une narratrice, une sorte de double de vous, qu'on pourrait qualifier d'anthropologue, et qui va étudier un peuple des lointains. Est-ce que c'est bien cela ?
À la fois oui, à la fois non. Parce que ce qui est toujours mis en question dans le livre, c'est la question de l'appartenance de cet être, narrateur ou narratrice, à ce peuple. C'est pas clair. Mais en tout cas, c'est pas tout à fait le rapport d'un anthropologue ou d'une anthropologue. C'est pas le rapport d'un autre ou d'une autre qui va vivre peut-être de manière intégrée, pas forcément avec cette distance objectivante d'une certaine anthropologie, mais là, c'est plus complexe que ça, parce que on comprend que la narratrice, le narrateur a quitté son monde définitivement pour vivre dans cette communauté ou dans ce peuple. Donc pour moi, le rapport, il n'est pas tout à fait le même.
Donc on ne pourrait pas qualifier le narrateur, la narratrice d'anthropologue.
Difficilement pour moi, le narrateur ou la narratrice pourrait prendre cette position. Par contre, ça n'empêche pas que le récit peut être à caractère anthropologique, mais alors on devrait peut-être dire ce que fait pour nous un récit anthropologique, ce que fait pour ceux qui le lisent, pour ceux qui restent et qui lisent ce récit de l'altérité, qu'est-ce que ça produit. À cette condition-là, on pourrait peut-être dire que c'est un récit anthropologique.
Alors j'aimerais qu'on parle déjà du titre qui s'appelle « L'aversion ». Il pourrait y avoir plusieurs interprétations possibles de ce titre.
Oui. La première, c'est comme ça qu'on appelle l'exercice qui consiste à traduire d'une langue à une autre un texte. Donc c'est ramener dans sa propre langue un texte qui a été écrit dans une autre langue, ce qui est effectivement très juste pour caractériser l'effort constant de cette voix qui essaye de trouver dans notre langue des mots pour décrire quelque chose qui est a priori très étranger à notre expérience du monde. Donc ça, c'est le sens le plus important. L'autre sens aussi, c'est que c'est un texte qui est sa nature, il y a quelque chose du témoignage, du compte-rendu, du rapport. Et du coup, c'est inévitablement une version possible de ce qu'on peut dire, de l'histoire qu'on peut raconter de ce monde. Donc c'est une des versions possibles. Peut-être que ce même narrateur, cette même narratrice, à une autre époque de sa vie, aurait raconté une autre histoire, en vivant la même chose. Une autre personne aurait inévitablement raconté autre chose. Donc c'est une version possible. Et puis il y a aussi le... Dans le... quand on l'entend, la version, on entend aussi la possibilité que le titre soit la version L'aversion. Et ça, c'était important aussi pour moi qu'on l'entende, parce que malgré la féerie qui peut se dégager du texte et aussi le caractère utopique à certains moments, il y a aussi quelque chose de plus sombre qui traverse le texte à plusieurs niveaux. Et j'aimais l'idée qu'on l'entende dans le titre.
Alors, si vous n'êtes pas partie des récits d'anthropologie, est-ce que vous pouvez nous parler des modèles d'écriture de votre livre, d'où ça provient ?
Merci. Je pense que ça provient pas d'un champ en particulier, ça provient d'une longue pratique de lecture qui va piocher dans plein de champs différents et qui fait peut-être qui digère tout ça et qui le transforme d'une manière un peu hybride. Je pense que les plus grandes influences, c'est tous les auteurs sud-américains, Borges, Pio Casares, des auteurs que j'ai beaucoup lu quand j'étais plus jeune. Il y a la science-fiction aussi, et par exemple la science-fiction à caractère qu'on appelle soft science fiction, donc plutôt des autrices américaines des années 70, comme Ursula Le Guin par exemple, qui pour le coup, son père était anthropologue d'ailleurs, qui pour le coup ont cette recherche anthropologique dans leur... Donc peut-être qu'en fait l'anthropologie, elle est arrivée à moi de cette façon-là, par des auteurs de science-fiction qui ont cherché, trouvé des ressorts ou des chantiers communs d'exploration avec les anthropologues.
Je comprends mieux par votre réponse, effectivement, d'où est votre point de départ. Et Ursula Le Guin, là, maintenant, on pourrait effectivement lire votre livre avec cet impact en tête. Et j'étais parti des anthropologues et pas d'Ursula Le Guin, effectivement. Il y a ce lien fort d'Ursula Le Guin avec l'anthropologie par sa famille, par son père, effectivement. J'aimerais qu'on commence par la première phrase, hein, parce qu'elle nous dit beaucoup, cette première phrase. « Je ne crois pas qu'on puisse parler d'un monde dans la langue d'un autre monde. » Alors moi, j'étais resté sur un corpus de sciences humaines, et vous savez que les grands noms en anthropologie aiment bien une première phrase qui frappe. On peut penser à « Je hais les voyages et les explorateurs », la première phrase de « Triste tropique » de Claude Lévi-Strauss, où il y a cette autre première phrase vraiment devenue à l'état de postérité, celle de Philippe Descola dans « Parle de la nature et culture ». C'est dans l'aval du Capaoui, une rivière limoneuse de la haute Amazonie, que j'ai commencé à m'interroger sur l'évidence de la nature. Voilà, il y a des célèbres premières phrases en anthropologie, moins peut-être en science-fiction. Et j'ai trouvé que c'est une manière assez puissante de commencer. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'un monde dans la langue d'un autre monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Déborah Lévi ?
Oui, alors peut-être que là-dessus, il y aurait beaucoup de chemins différents à emprunter pour parler. Cette phrase est venue très vite, parce que... très rapidement, le travail que j'avais à faire pour écrire ce livre qui se présentait, c'était de devoir mettre des mots sur des images ou des sensations ou des expériences ou des intuitions qui étaient très difficilement discibles. Dès que le monde a commencé à exister et que ce peuple a commencé à exister et qu'ils ont commencé à vivre, tout ce que j'ai pu observer d'eux, j'avais beaucoup de difficultés à mettre des mots dessus. J'étais toujours insatisfaite par les mots. Ce qui fait qu'il y avait, il en reste des traces dans le texte, il y a beaucoup de tâtonnements. Je dis que je vais utiliser tel mot, mais qu'en même temps, c'est pas tout à fait le bon mot, que c'est contradictoire, qu'un certain sens du mot est contradictoire avec ce que je dis. Il n'y a jamais le bon mot, en fait. Et j'en ai laissé beaucoup, j'en ai enlevé beaucoup de ces tâtonnements, parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup plus. C'est devenu très profus, ces hésitations. Mais il en reste quand même beaucoup de traces. Et cette phrase, c'est la nécessité de dire d'emblée que le travail que je vais devoir faire, c'est celui-là.
Alors j'aimerais qu'on en vienne à cette population qui est étudiée, ce peuple qui est étudié. Je me suis posé la question si c'était un peuple qui était encore humain. Peut-être qu'on comprend mieux si vous passez par Ursula Le Guin, si vous passez par cette science-fiction. Parce que j'avais l'impression que ce peuple disposait de particularités qui avaient été non rencontrées par les anthropologues dans les populations humaines autochtones.
Non rencontrées ?
Oui, c'est-à-dire que les anthropologues actuels, quand ils vont dans les lointains étudier des populations autochtones, quand ils les étudient, on comprend bien que ce sont des humains et qu'ont tout de même des caractéristiques et des cultures humaines. Et j'ai l'impression que le peuple qui est écrit dans la version a des caractéristiques qui font penser qu'il n'est pas forcément que humain, peut-être plus qu'humain ou pas humain.
Est-ce que vous pouvez dire un mot sur ces caractéristiques pour être sûr que je...
Alors, oui, on peut caractériser. Par exemple, lorsque vous écrivez « oui », ça veut dire qu'on avait le corps dont on était capable de s'occuper. Ce qui implique que tout le monde n'avait pas le même genre de corps. Parce que ce qui importait le plus était que chacun puisse s'entretenir soi. Ils n'aient pas tous le même corps, ça pourrait faire penser à des personnes. Et encore, le mot personne n'est peut-être pas la bonne. C'est là où on va commencer à hésiter, en fait, avec votre texte. De même que le narrateur-narratrice hésite aussi. Et là, on a affaire à des problèmes de langue et donc à des problèmes aussi de concept sous-jacent, afin de qualifier ces entités-là, et encore même le mot entité est douteux, parce qu'à un moment donné, il y a un doute aussi dans votre texte là-dessus. Voilà, ce qui implique que tout le monde n'avait pas le même genre de corps, ceci peut nous faire comprendre qu'il y a peut-être un doute à émettre sur leur qualité en tant qu'espèce humaine.
Oui, à mon sens, il y a plusieurs de leurs caractéristiques qui nous semblent tellement étrangères qu'il est plus facile d'imaginer qu'elles sont non humaines que d'imaginer une autre humanité. Bon, la diversité des corps, ça, je pense qu'on peut... si on contemple l'humanité, on peut voir que c'est possible. Mais par exemple, je pense à la question de l'identité, qui est un motif qui revient beaucoup. C'est un peuple où l'identité n'a pas la même valeur, ou n'est pas structurante dans la société, comme elle peut l'être chez nous. Et ça, c'est que les personnes ne soient pas des personnes, en fait. Que les corps n'aient pas d'identité, ou que leur identité ne soit pas importante. C'est quelque chose qui peut nous paraître tellement inhumain que je pense qu'il est plus facile d'imaginer que ce soit autre chose plutôt que des humains. Mais, alors du coup, je ne suis pas anthropologue, donc je ne sais pas. Mais l'humanité me paraît tellement riche et variée dans ses dessins possibles de formes de vie que je crois que c'est impossible d'imaginer une humanité qui ne serait pas possible quelque part. Donc peut-être qu'en fait, ils existent quelque part. J'ai eu depuis la sortie du livre des personnes qui m'ont... par exemple, dit que certaines choses que je décris sont vraies de certains peuples autochtones qui ont été décrits par des anthropologues. Notamment, par exemple, toute la partie sur le don. Ben, apparemment, Marcel Mauss a décrit ça de manière très précise. Moi, j'ai jamais lu Marcel Mauss. Mais donc, je pense qu'il y a des éléments qui sont pas représentatifs d'une seule population. Mais je crois qu'au fond, tout ce que j'ai décrit, c'est possible que ce soit vécu par l'humanité.
Alors entrons justement sur les capacités de ce peuple. Une qui m'a paru, comment dire, qui m'a interrogé, que j'avais justement envie de vous questionner à ce sujet-là, c'est leur usage de la temporalité, leur usage de la chronologie, leur usage du temps. Je vous cite, « La mort d'un personnage égalait la chute d'une pomme au pied d'un pin. Chaque événement était un événement. » Oui, je sais, c'est paradoxal. C'est parce que le mot « événement » ne permet pas de comprendre. Il discernait une infinité de phénomènes différents, mais égaux. Et plus loin, vous écrivez, « Il ne disposait d'aucun système conventionnel pour se situer collectivement dans le temps. » Pouvez-vous nous parler de leur relation au temps ?
Oui, leur relation au temps est beaucoup plus, peut-être plus pragmatique ou plus pratique que la nôtre. Le temps n'a pas de valeur en soi, sa valeur peut lui être donnée par les usages. Donc au moment où j'explique qu'ils n'ont pas de système commun, ils ont plein de façons de se mettre d'accord sur quel temps, ou de se synchroniser par exemple. Mais le temps n'a pas de valeur qui soit vrai ou fixe, hors de l'usage qu'on peut en faire. Ils n'ont pas le temps chronos, quoi. Et ils ont un rapport au temps aussi qui est déterminé par leur rapport au... Je le dis pas comme ça dans le texte, mais on pourrait dire leur rapport au projet. La plupart de leurs activités n'ont pas de rapport au projet. Elles ont pas de finalité. Elles n'ont pas de plan, de programme. Et donc leur rapport au temps est lié aussi à cette absence de finalité. Oui.
J'aimerais aussi qu'on parle de leur rapport aux objets. Et ça m'a fait écho à l'usage, enfin à tous ces textes des anthropologues sur les fétiches, notamment. C'est-à-dire un objet qui est fabriqué par un humain et qu'après l'humain va utiliser en oubliant que c'est lui-même qui l'avait fabriqué. Et alors, vous continuez cette affaire de fabrication d'objets ainsi. On voit bien qu'ils aimaient les agencements de matière. Je dis agencement de matière parce que, compte tenu de la nature de ces choses, j'ai du mal à dire objet. Si je parle d'objet, j'annule l'essence fondamentalement instable et complexe de ces agencements de matière.
Oui, parce qu'en fait, ils ont un rapport passionné à la matière. Il y a beaucoup d'abstraction dans le texte, mais il y a aussi beaucoup de descriptions de matière. C'est un rapport presque, enfin, en tout cas pour moi, je ne sais pas si c'est senti dans la lecture, mais érotique à la matière. Et en même temps, rien n'a vraiment le statut d'objet. Il n'y a pas de table, de chaise, de verre, il n'y a pas de... La matière ne se condense jamais de manière assez stable pour former quelque chose qui pourrait être reconnaissable ou répété. D'ailleurs, je ne le dis pas dans le texte, mais en fait, ça me paraît évident qu'il n'y a pas deux agencements de matière identiques. Donc, il ne pourrait pas y avoir deux tables ou deux chaises. C'est sans doute lié à une thématique plus large du texte qui est la question de la transformation. Comme tout est toujours en transformation dans ce monde, leur corps, leurs pensées, les paysages, c'est pareil pour la matière. Donc c'est comme si la matière n'arrivait jamais à se densifier, à se stabiliser suffisamment pour faire ce que nous on appelle des objets et qui sont réplicables, conservables.
Et il en est de même pour leur corps, puisque la manière dont ils transforment ces objets, ou en tout cas ces agencements de matière, cela impacte aussi leur corps. C'est-à-dire que ces agencements de matière et leur corps sont un peu des équivalences et qui peuvent être malléables. Et vous employez même le terme de « mu » à propos de leur corps.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas de différence substantielle entre la matière qui constitue leur corps et la matière qui constitue les objets. Tout est des corps. Les objets sont des corps, leurs corps sont de la matière. Ce qui d'ailleurs peut-être ça résonne avec une question que vous avez posée plus tôt, faire parfois penser qu'ils sont inorganiques. Et que donc ils sont pas tellement, pas tout à fait humains, parce que s'ils sont pas organiques, ils sont pas tout à fait humains, pas tout à fait vivants. Mais à la fois c'est étrange parce que ce serait pas tant que eux ne seraient pas vivants, c'est plutôt que la matière elle-même est aussi vivante. C'est plutôt, ça va plutôt vers du tout vivant, on va dire. Et donc les objets, la matière est inlassablement en train de se transformer. Sous l'effet du temps qui passe, sous l'effet des conditions météorologiques, sous l'effet de la dégradation, sous l'effet... Et leur corps aussi, à la fois l'extérieur de leur corps. Donc ils ont un immense intérêt à se transformer, à faire des dessins sur leur peau, à s'habiller de certaines manières. Il y a un grand plaisir de la transformation extérieure, mais aussi de la transformation intérieure. Leur monde intérieur sont tout le temps en train d'évoluer. Leur cosmogonie, leur souvenir. Bon, en ça, je pense qu'ils ne sont pas très différents de nous, pour le coup. Je pense que peut-être on ne le voit pas toujours, mais qu'on est tout le temps en train de se transformer. On n'est jamais les mêmes d'instant en instant. Et c'est peut-être une assez grande conscience de ça qui m'a amenée à écrire ce rapport à la transformation. Une conscience assez grande qu'on n'est jamais identique à soi-même d'une seconde à l'autre.
Alors maintenant qu'on a posé un peu des jalons sur ce peuple, quel est le statut du narrateur, narratrice, qui n'est pas une anthropologue, qui va essayer de se mélanger à eux, mais qui est une forme d'extériorité, qui arrive chez ce peuple? Qu'est-ce qui se passe pour le narrateur, la narratrice?
Oui, cette voix qui raconte, elle est entre deux positions, dedans, dehors. C'est pas très clair. Ça se clarifie à la fin. En fait, le statut de cet être, c'est le statut, au fond, je pense, de tout être humain qui cherche à vivre dans un territoire, dans un peuple, dans une communauté qui lui est appropriée ou qui lui convient. Parce que ce qui est dévoilé à la fin, c'est que cet être a décidé de vivre là pendant longtemps, et pour ça, elle a abandonné son territoire initial, sa peuplade initiale, parce qu'elle ne pouvait pas vivre de là où elle venait. Il y avait un problème d'origine. Comme si, en fait, elle n'était pas née dans le bon peuple. Et en même temps, elle peut jamais devenir un membre exclusif de l'autre peuple parce qu'elle vient de son peuple original dans lequel elle était. Donc il y a l'impossibilité en fait de l'appartenance. Ça c'est ça l'histoire de cette personne qui parle, c'est l'impossibilité de l'appartenance. Elle veut pas, elle peut pas vivre de là d'où elle vient, mais elle peut pas non plus être totalement dans un autre monde.
Si bien que mon hypothèse de départ de « c'est une anthropologue » ne tient pas, puisque la plupart des anthropologues reviennent après pour expliquer dans les institutions savantes, à l'université, le fruit de leur découverte anthropologique, en fait. Et ils reviennent, et il y a très peu d'anthropologues après qui restent à demeure dans la population qu'ils étudient. Il y a toujours ce retour de l'anthropologue. Et là, effectivement, il y a... toute cette réflexion, et la fin est très très belle. Vous parlez de, je vous cite, la plupart des personnes passent leur vie dans un même peuple, certaines changent de peuple, elles sont les seuls points de contact entre les peuples. Et vous avez une belle réflexion justement sur ce changement de peuple. Alors on pourrait, là soudain vient plutôt l'idée de transfuge de classe par exemple, on pourrait appeler ça transfuge de peuple peut-être, est-ce que cette analogie pourrait convenir?
Oui, je pense que cette histoire de changement de peuple ou de transformation, ça parle de toute transformation d'un humain qui est confronté à la difficulté de changer de monde, peu importe l'échelle de ce monde-là. Est-ce que c'est un monde familial? Est-ce que c'est un monde social? Est-ce que c'est un monde territorial? Un monde environnemental? Je pense que ça parle de cette difficulté-là, clairement. Et je rebondis aussi sur ce que vous avez dit avant. Par rapport à l'hypothèse anthropologique, j'y avais pas pensé, mais ça me vient maintenant. Mais en fait, ce qui est aussi particulier, c'est le mode d'énonciation. Donc, un anthropologue qui revient de son terrain pour partager ses connaissances à la communauté scientifique, il est vraiment sur le mode de la conférence, du savoir positif, ancré, de la construction de la science, en fait. Et en fait, ce texte n'est pas là-dedans, je crois. Et aussi la situation d'énonciation. Le narrateur, la narratrice qui parle presque sous contrainte. Cette voix, elle n'a pas trop envie de raconter ce qu'elle a vu. Elle a peur de trahir le peuple, parce qu'elle a peur qu'on découvre son existence et qu'on les extermine, en fait. Elle a peur de trahir leurs pensées, parce qu'elle a peur qu'on s'approprie leurs pensées pour faire d'autres choses. Elle a peur de trahir par les mots. Enfin, il y a vraiment une. C'est pas simple de parler, quoi. Et elle parle sous la contrainte, elle est liée à la fin, on comprend qu'elle est tenue prisonnière. Et que peut-être le texte, c'est. On comprend qu'il y a des personnes qui vont. Qu'elle est détenue et qu'il y a des agresseurs potentiels qui arrivent. Et que donc la parole est contrainte. Et bon, ça, pour moi, c'est pas la parole d'un anthropologue ou d'une anthropologue.
Alors, est-ce que votre livre pourrait être un récit de science-fiction à la manière de Ursula Le Guin? Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez conçu, puisqu'on quitte plutôt voilà, la manière d'écriture de l'anthropologue et mon hypothèse qui était ça pourrait être un livre inventé, une fiction inventée à partir de la collection Terre humaine chez Plon, où c'était des récits d'anthropologues, mais eux, ils parlent sans contrainte, bien entendu. Et dans ces cas-là, est-ce que votre texte a plutôt tout à voir avec un corpus de science-fiction à la Ursula Le Guin?
Je ne sais pas si je peux répondre à la question de savoir si c'est un texte de cette nature-là ou pas, si je peux démarquer ça. C'est clair que la science-fiction, Ursula Le Guin ou d'autres auteurs et autrices de science-fiction ont marqué durablement mon parcours de lectrice. Mais par contre, je repense à un livre de Pierre Déléage que j'avais lu il y a 2-3 ans, un petit peu sur la fin de l'écriture du texte. Et qui dit qui va, vous voyez donc le livre en question. Donc qui l'hypothèse de son livre, c'est qu'en fait, il prend quatre anthropologues dans des mondes d'anthropologie un peu différents, des anthropologues du XXe, si je me trompe pas, et il fait l'hypothèse que ces récits d'anthropologie sont plutôt des récits de science-fiction, mais pas assumés, parce que en fait, ce que font ces anthropologues, je résume et je caricature. Hein. Mais ce que font ces anthropologues quand ils vont visiter des peuples autochtones, c'est projeter leur propre questionnement de leur monde académique, projeter leur propre questionnement sur ces peuples, et que donc ils ne décrivent pas les peuples, ils ne se décrivent qu'eux-mêmes à travers. Et ben, en lisant le livre de Pierre Déléage, je me suis dit que je faisais effectivement le même travail, mais tout en assumant que c'est un récit de fiction. Et ça rejoint ce que je vous disais dans la réponse à la première question, c'est que je pense que l'élan est le même. C'est trouver de l'altérité cognitive par rapport à ce qu'on peut vivre dans sa vie. Je crois, de nouveau sans caricaturer l'anthropologue, mais c'est ce que dit Pierre Delage dans son livre, en tout cas c'est que l'anthropologue qui part dans ce type de société, il est à la recherche d'une altérité cognitive. Et que c'est le même élan, moi quand j'écris, je cherche une altérité cognitive. C'est juste que je n'implique pas des vraies personnes.
Je renvoie à l'interview que j'ai eue avec Pierre Déléage justement sur ce livre-là qui était paru à la Découverte. Je ne retrouve pas le titre, mais c'était un livre important de Pierre Déléage. Donc Pierre Déléage est un anthropologue qui est spécialiste d'une population. Alors je ne sais plus dans quel coin de l'Amazonie, et c'est notamment un spécialiste d'un chaman qui est décédé depuis, où il a restitué sa parole. Il a essayé d'inventorier toute la parole du chaman et de la traduire. Donc c'est vraiment un anthropologue très précis sur une population, un village. Un chaman. Et dans son livre, parce puisqu'il est versé dans la théorie de la science-fiction, Pierre Delage, et vous l'avez très bien retranscrit, effectivement, considère qu'un anthropologue aussi réputé, aussi connu que Eduardo Viveiros de Castro, avec sa grande théorie sur le perspectivisme amérindien, Il fait cette hypothèse, Pierre Delage, de attention, peut-être que là, c'est plus du ressort de la science-fiction que du ressort d'une anthropologie savante. Et c'est là où il est intéressant dans sa critique qu'il peut mener sur Eduardo Viveros de Castro. Alors, critique qui a du coup fait pas mal de bruit, beaucoup de personnes n'étaient pas en accord. Mais en tout cas, ça a permis justement d'interroger, à partir de la science-fiction, à partir de la fiction de cette catégorie-là, les récits, les travaux savants des anthropologues. Et ça, c'est particulièrement, particulièrement fécond. J'aimerais qu'on... Parce que je trouve que le livre de Pierre Delage, vraiment, c'est... Enfin voilà, j'avais vraiment... J'avais ma question, j'avais vraiment... fait cette hypothèse-là aussi, que vous pouviez partir de ça pour écrire la version, en tout cas, peut-être avoir ce dialogue-là, lui, du coup, du point de vue de l'anthropologue, sérieux et savant, ce qu'il est, et vous, plutôt, du côté de l'usage de la fiction, puisque ce qui m'a vraiment intéressé dans votre texte, et c'est pour ça que j'avais envie de vous interroger, c'était justement cette relation entre usage de l'anthropologie et usage de la fiction, et Ursula Le Guin est la bonne personne, je n'avais pas pensé à elle, mais est vraiment la bonne personne qui fait ce lien, Pierre Delage est la bonne personne qui fait ce lien. Et du coup j'ai l'impression d'avoir entre les mains un texte de quelqu'un qui vient de l'écriture fictionnelle et qui... à un mode d'interrogation de la discipline anthropologique qui est à part, qui est étonnant, qui est original du coup. Et c'est pour ça que j'ai lu votre texte de cette manière-là. Est-ce que ça vous convient ?
Oui, ça me convient très bien. Et le détour par Pierre Delage me permet aussi du coup de revenir sur quelque chose qu'on a déjà évoqué. Parce qu'en fait, donc, il parle de ces quatre anthropologues dans son livre, mais il parle aussi de Philippe K. Dick. Et ce qu'il fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il compare les stratégies textuelles, vraiment formelles pour le coup, littéraires, des quatre anthropologues et celles de Philippe K. Dick. Ben, j'ai pas lu Viveiro de Castro ou Carlos Castaneda ou je sais plus qui sont les deux autres, mais j'ai par contre beaucoup, beaucoup lu Philippe K. Dick quand j'étais plus jeune. Et en fait, Ursula Le Guin, Philippe K. Dick, et peut-être d'autres qui ne me viennent pas maintenant, ont commencé des chemins qui seraient peut-être celui que je poursuis, qui serait de faire une anthropologie fictionnelle, une anthropologie d'altérité, mais en passant par la fiction. Je ne l'avais jamais vu comme ça, mais ça me convient tout à fait.
Merci beaucoup, Déborah Lévy. Merci.